Alors vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous écouter en streaming et même jusqu'à Marseille, hein, Marseille d'où Anne nous appelle. Et pour nous parler, eh bien, du même sujet que tout à l'heure, que l'on vient parler à Chalon, hein, les enfants étrangers à la rue. Allô, Anne?
Oui, bonjour à Paris.
Oui, bonjour à Marseille. Comment va?
Eh ben, ça va avec le grand Mistral.
Ouais.
Et le Mistral n'est pas seulement un vent folklorique, c'est aussi un vent très froid et très violent. Et quand on dort dans la rue, c'est vraiment très difficile d'y échapper.
Ouais.
Voilà. Donc, tous nos gamins qui dorment dans la rue, en ce moment, c'est particulièrement douloureux.
Et tu les évalues à combien ?
Alors, c'est pas moi qui les évalue, mais en gros, entre 80 et 85 qui ont déjà une OPP, une ordonnance provisoire de placement, mais qui sont toujours pas pris en charge.
Ouais.
Alors, ça veut pas dire forcément qu'il y en a 80 dans la rue, parce qu'il y a quand même des hébergements militants,
ouais.
À la fois par des réseaux militants, mais aussi par des particuliers,
ouais.
Qui ne font pas forcément partie d'un réseau particulier, mais enfin non, de particuliers qui ne font pas partie d'un réseau, voilà.
Ouais.
Mais il y en a dans la rue de toute façon. Alors combien? Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, je ne sais pas.
Ouais.
Mais il y en a dans la rue, oui.
Ok, donc là, c'est les gamins donc, qui ont reçu ce qu'on appelle une ordonnance provisoire de placement. Donc, c'est une décision de justice d'un juge qui a dit qu'ils doivent être...
C'est ça. Ce sont des jeunes qui sont reconnus mineurs.
Ouais.
Donc, ils sont reconnus en tant qu'enfants.
Oui.
Et pour lesquels le juge des enfants a prononcé une ordonnance.
Mais comment c'est possible qu'ils soient à la rue ?
Eh ben, c'est une très bonne question. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien.
Ouais.
C'est-à-dire que non seulement n'importe quelle personne qui se déclare mineure doit être mise à l'abri en attendant l'évaluation à la fois de sa minorité et de son isolement.
Ouais.
Et là, non seulement on les met pas à l'abri en attendant l'évaluation, on fait d'abord l'évaluation avant de les mettre à l'abri, et ensuite, même quand il y a eu une évaluation qui leur est favorable, c'est-à-dire où on confirme qu'ils sont mineurs, et que le juge des enfants a prononcé une ordonnance qui normalement vaut ordonnance, comme son nom l'indique, c'est un ordre, et bien même là, ils sont dans la rue. Officiellement, par manque de moyens, on est nombreux à réfuter cet argument, d'abord parce que les moyens, quand on les veut, on les a.
Oui.
On voit les dépenses. On entend parler en ce moment de milliards d'euros.
Ouais.
C'est vraiment magnifique, parce que milliards d'euros, ça fait trop de zéros. Nous, on n'arrive pas vraiment à appréhender ce que ça représente. Par contre, des jeunes dans la rue qui n'ont même pas 2 euros pour aller manger, ça, on sait bien ce que ça représente.
Là, on voit, plus c'est petit, plus on voit ce qu'on appelle ça la décroissance de l'utilité marginale en économie.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Ouais. Donc... Oui.
Vas-y.
Non, je te laisse continuer.
Ils sont dans la rue, donc ils sont pris en charge, entre guillemets. On leur donne 3 fois par semaine des tickets repas. Donc l'association qui est chargée de l'évaluation et de la mise à l'abri, donc ne fait pas de mise à l'abri puisqu'elle n'en a pas les moyens.
Ouais.
Mais par contre, les exige de les voir 3 fois par semaine,
ouais.
Pour leur distribuer des tickets repas.
Ouais.
Si jamais ils ne se présentent pas à la distribution, alors la distribution, c'est pas dans un lieu, un local particulier, c'est dehors, hein, dans la rue.
Ouais.
S'ils se présentent pas, ils sont considérés comme étant en fuite et plus avoir besoin d'hébergement, donc ils sortent des listes.
D'accord.
Ce qui veut dire que ceux qui sont hébergés par des particuliers un peu à l'extérieur de Marseille, parce qu'il n'y a pas que le centre-ville de Marseille, il y a aussi des tas de communes autour où il y a des hébergeants, ça veut dire que ceux-là sont obligés, 3 fois par semaine, d'amener les jeunes au centre-ville pour qu'ils aient leur ticket repas, et surtout pour qu'ils continuent à être sur les listes d'attente.
D'un hypothétique hébergement.
En sachant que les hébergements, les prises en charge, donc en foyer, en MEX, maison d'enfants à caractère social, ça peut être dans la ville ou dans le département, mais ça peut être aussi complètement à l'autre bout de la région et même à l'autre bout de la France.
Ouais.
On le sait, puisque d'abord, il y en a qui sont placés à l'extérieur des Bouches-du-Rhône, mais il y a aussi ceux qui ont une ordonnance provisoire de placement venant d'un autre département, qui est envoyé à Marseille. On les met dans un train en disant, bah, tu vas à Marseille avec ça, le ça étant le papier, l'ordonnance provisoire de placement du juge des enfants, et on leur dit, tu vas à Marseille, il y aura une place pour toi. Ils arrivent à la gare, et non, il n'y a pas de place pour eux. Ils se retrouvent dans la rue.
Okay.
Donc on déplace ces jeunes comme sur un échiquier. Ouais. On les balade d'un endroit à un autre. Il y a même à Toulon récemment un jeune à qui, au bout de 2 mois de prise en charge à l'hôtel, à qui on a dit bah, on n'a plus de place pour toi, tu dois sortir, tu dois partir dans la rue, essaye d'aller tenter ta chance à Angers. On est à Toulon quand même. Et on lui a dit essaye d'aller tenter ta chance à Angers, mais sans rien lui donner, pas le premier centime, ni pour le repas suivant, ni pour un billet de train, ni quoi que ce soit. Va tenter ta chance, quoi.
Okay.
Pour quelqu'un qui est mineur. Et ce sont des éducateurs qui sont chargés de la protection de l'enfant qui disent ce genre de choses. Alors, ce n'est pas aux éducateurs qu'on en veut, parce que je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise de faire ce genre de boulot.
Mm-hmm.
Comme a dit l'un d'entre nous récemment, pas un éducateur n'a choisi ce métier pour mettre des gamins à la rue. N'empêche que c'est ce qu'on les oblige à faire.
Ouais.
Je ne sais pas comment ils font. Enfin, il y en a plein qui sont plus qu'en burn-out, hein, qui sont plus qu'écœurés de ce qu'on les oblige à faire, mais qu'ils le font parce que, bah, parce que de toute façon, voilà, il n'y a plus les sous pour payer les hôtels, donc on met les gamins dehors, à dormir sur un trottoir.
Ok. Et donc ça, c'est pour les gamins qui sont, en principe, donc partout ailleurs, et quand on est évalué mineur, qu'on a cette fameuse ordonnance de placement provisoire, cette OPP, bah, on est content parce qu'on est à l'abri, à Marseille, non.
Alors, oui, j'ai peur qu'il n'y ait pas qu'à Marseille. C'est-à-dire qu'à Marseille, non. Ils finissent par être pris en charge, hein, au bout d'un moment.
Oui.
Ils finissent par. Mais au bout d'un mois, 2 mois, etc. Mais c'est un peu partout pareil. Hein. Alors, partout, je suppose qu'il y a des villes où c'est pire que d'autres. Je n'ai pas l'état des lieux. Mais il n'y a pas qu'à Marseille où les OPP ne sont pas respectés.
Et donc, l'évaluation quand le jeune arrive à Marseille, l'évaluation, comment ça se passe?
Alors, quand le jeune arrive à Marseille, il faut qu'il soit répertorié par l'ADAP, donc qui est une association, qui est l'association missionnée par le Conseil départemental pour prendre en charge les mineurs isolés.
Elle s'appelle comment, tu as dit là?
Alors, c'est l'ADAP 13, mais l'ADAP, c'est une association d'éducateurs de rue.
Mmh.
Y a un service dédié aux mineurs isolés, SMNA, service mineurs non accompagnés, qui dépend de l'ADAP, mais c'est un service particulier de l'ADAP.
Okay.
L'ADAP, par ailleurs, fait un gros boulot d'éducateur de rue dans les quartiers difficiles, dans les endroits difficiles, et c'est pas l'ADAP même qui est en cause, c'est même pas non plus le service mineur non accompagné, c'est le conseil départemental et l'aide sociale à l'enfance qui pilote cette association.
Okay.
Et donc ça se passe qu'il faut qu'ils soient répertoriés par l'ADAP.
Ouais.
Et une fois qu'ils sont répertoriés, ils ont une évaluation. Alors, j'ai pas exactement la visibilité au bout de combien de temps l'évaluation se fait, mais en tout cas, c'est évidemment pas immédiat. C'est de l'ordre de plusieurs semaines.
Ouais.
Et l'évaluation se fait par des juristes. Donc c'est une autre association qui a obtenu le marché, pardon, mais c'est dans ces termes-là que ça se joue, et qui fait l'évaluation. Ce ne sont pas du tout des éducateurs, ni des spécialistes de l'enfance, ni de l'adolescence.
Mmh.
Ce sont des juristes qui, lors d'un entretien, évaluent si le discours du jeune, éventuellement les papiers qu'il possède, ou les photocopies de papiers qu'il possède, sont fiables ou pas.
Ouais.
C'est-à-dire, on a des... Donc, ils ont des, par écrit, des résultats d'évaluation qui disent, par exemple, le jeune a un discours construit, parfaitement francophone, un discours construit, il sait respecter, il connaît les règles, il sait les respecter, donc il n'est pas mineur.
Okay.
Ce qui veut dire que, en gros, tous ces jeunes, ça veut dire, mais il y a plein de choses que ça veut dire. Ça veut dire qu'un jeune ne sait pas respecter les règles, ce qui est complètement faux, ça veut dire aussi que quand on sait respecter les règles, c'est qu'on est adulte. Enfin, ça rime à rien. Ça suppose aussi que ces jeunes qui arrivent, ils n'ont pas été éduqués. Parce que c'est ça aussi un des messages subliminaux qui passe. C'est que ces jeunes, s'ils ont été correctement éduqués, bah, c'est qu'ils sont adultes, quoi. Ils peuvent pas être jeunes. Et ça, c'est totalement insupportable.
On peut réécouter d'ailleurs l'émission qu'on a fait il y a 3 semaines. Ici, c'est un jeune qui est ivoirien. On lui a fait exactement ce reproche. Hein, il a 16 ans. Oui, mais toi, tu parles très bien français. C'est ce qu'il nous racontait. Il me dit, bah oui, bon, Côte d'Ivoire, on parle français. C'est ma langue maternelle.
Oui.
Voilà. Donc, oui, je t'ai interrompu.
Oui, pardon. C'est moi qui t'ai interrompu.
Je crois. Oh, c'est pas grave.
Ça suppose. Enfin, je veux dire, ça laisse passer des messages. Le fait, par exemple, d'arrêter que les Noirs à la frontière, le message est très clair. Mais le message qui consiste à dire ils sont jeunes que s'ils ne savent pas respecter les règles et ils sont francophones correctement, donc ils ont été scolarisés longtemps, c'est faux. On a des tas de jeunes qui arrivent qui sont parfaitement francophones parce qu'ils viennent de pays qui sont des anciennes colonies, Côte d'Ivoire, le Mali... la Guinée, etc., et qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, qui ne savent pas reconnaître 2 lettres, mais qui sont parfaitement francophones, avec en plus un français très, très châtié, presque littéraire, avec des formules que nous, on n'emploie plus, et nos jeunes encore moins. Mais c'est vrai que ça peut faire une illusion de scolarisation, et c'est juste une méconnaissance totale de la vie qu'ils ont eue, des conditions de vie dans le pays d'origine, etc.
Ok. Et donc on a cette évaluation donc repose uniquement sur un entretien. On fait pas les tests osseux à Marseille.
Alors à ma connaissance, on n'en fait pas beaucoup. Ouais. Il y en a, mais d'abord ils sont pas systématiques, ça c'est sûr. On n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de retours sur les tests osseux et sur les tests osseux et sur les examens médicaux.
Ouais.
Par contre, l'évaluation se fait sur un entretien.
Ok. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement, hein, puisque je vois que les oreilles loin du front, excellente émission, commencent à s'installer dans les studios, un petit mot sur les actions de solidarité qui se passent, parce que tu nous parlais d'hébergement solidaire, mais je crois qu'il se passe des choses intéressantes aussi à Marseille.
Oui, alors il y a de l'hébergement solidaire, il y a aussi... Donc plusieurs collectifs qui font pas que de l'hébergement, qui font du soutien juridique.
Ouais.
Et depuis récemment, se sont mises en place des permanences juridiques pour les mineurs.
Ouais.
Alors, l'ADAP, dont on parlait, cherche à décourager les jeunes à aller à ces permanences en disant « Mais non, il faut pas que tu ailles voir les avocats, il faut pas que tu ailles dans ces permanences juridiques, ça va ralentir ton dossier », ce qui est complètement faux.
Ouais.
Et donc, ce sont des permanences juridiques qui ont été mises en place à la fois par l'association SOS Voyageurs, qui existe dans toutes les gares pour les voyageurs en détresse, et qui, là, prêtent leur local pour les permanences juridiques destinées aux jeunes isolés.
Ouais.
Il y a le collectif Soutien Migrant 13 El Mamba, qui prête aussi son local pour ces permanences juridiques. Il y a le collectif MIE 13, qui, avec l'association Espace Accueil Étranger, qui a édité un vademécum pour aider à la fois les jeunes et les soutiens des jeunes. Ce sont des fiches qui répertorient les lieux où on peut manger, les lieux où on peut se laver, les lieux où on peut recharger les téléphones, les lieux où on peut se soigner, les parcours de scolarisation et évidemment les possibilités de mise à l'abri.
D'accord.
Donc ça, c'est affiché un petit peu partout, dans les lieux de permanence juridique, ou dans les collectifs de soutien, etc. Et il y a une espèce de prise en compte collective. Le collectif MIE 13 est composé pas seulement de militants, mais est composé aussi de grandes associations nationales, NDH, MRAP, etc. Et aussi de travailleurs sociaux, des institutions... qui n'en peuvent plus, mais qui n'en peuvent plus d'être obligés de remettre des minots dans la rue. Alors en plus, ceux qui sont dans la rue, ils ont droit à 2-3 nuits d'hôtel, ça les repose, ça les met au chaud, mais après il faut repartir dans la rue.
Ouais.
Donc ça n'a aucun sens, c'est un scandale absolu. Et puisqu'on parle de mineurs, je signale aussi que 3 fois en une semaine, 3 squats de Roms ont été évacués par les forces de l'ordre à Marseille.
Ouais.
Et donc, il y a 100 d'enfants roms qui sont dans la rue actuellement.
Ok.
En plus des mineurs isolés, qui eux n'ont même pas de famille. Mais C'est ça aussi Marseille en ce moment.
Ok, donc là on n'a plus le temps de parler de la scolarisation, mais de toute façon vu les conditions, bah, je suppose qu'il n'y a pas ou pas beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup.
Ouais.
On essaye, on fait tout ce qu'on peut, mais il n'y a pas beaucoup parce que pour scolariser, il faut un représentant légal et les chefs d'établissement ne sont pas chauds pour scolariser un jeune qui n'a pas de représentant légal.
Ok.
Faut comprendre.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anne.
Eh bien, merci à FPP. Et puis, à bientôt, forcément. Hein.
Eh bien, à très bientôt. Et puis, j'espère que quand tu passes à Paris, tu pourras venir en live dans le studio. Ce sera encore mieux.
Eh bien, allez. D'accord. Volontiers. La prochaine fois que je monte.
Okay.
Salut à tout le monde. Bon courage.
Salut, Anne. Et salut à Marseille et aux Marseillais.
Merci.
Voilà, on était donc en direct avec Anne, RESF Marseille, et pas que RESF d'ailleurs. Et on va tout de suite passer à notre agenda.